Bonjour à tout le monde. Comme chaque fois, c'est toujours un privilège d'être devant vous, de vous annoncer la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que, en passant à travers ce message, c'est vrai qu'on peut lire la parole de Dieu, mais on découvre tous les jours, tout le temps, comment le Seigneur nous bénit de différentes façons à travers sa parole, surtout en revisitant les écrits. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la dernière partie du chapitre 9 du livre d'Osée. Donc nous allons lire les versets 10, le verset 17. Donc j'ai intitulé cette prédication « L'appel à la repentance au cœur du jugement de Dieu ». L'appel à la repentance au cœur du jugement de Dieu. Donc nous allons lire la parole de notre Seigneur à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Donc Osée 9, 10 à 17, lisons pour la gloire de notre Seigneur. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera. Parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Parole du Seigneur. Amen. On peut saisir la violence dans les mots ici, dans ce texte. Et l'un des défis majeurs de notre vie chrétienne est de maintenir une relation fidèle avec notre Dieu, surtout dans notre société, une société postmoderne qui nous pousse constamment à l'idolâtrie, qui nous pousse constamment à une forme de négligence spirituelle, qui nous pousse constamment à une infidélité par rapport à notre Seigneur. Le prophète Osée ici expose avec une grande clarté la souffrance du peuple d'Israël face au jugement de Dieu. Non pas en raison d'une négligence passagère, mais d'une infidélité qui était délibérée. D'une infidélité qui n'était pas seulement ponctuelle, mais d'une infidélité qui était continue et qui croissait. Israël est une nation née de l'intervention surnaturelle de Dieu, qui a racheté son peuple de l'esclavage de Pharaon. Dieu a donné à Israël des dirigeants doués tels que Moïse, tels que Josué, et non le moindre, David. Le message de Dieu a été proclamé par des prophètes fidèles, tels que Samuel, Isaïe, Jérémie. Pourtant, malgré toutes ces bénédictions, toutes les promesses sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer, et même malgré cette alliance avec leur Dieu, Israël s'est rebellé pour servir des idoles et vivre dans une débauche. Cette sombre histoire nous prépare au rejet du royaume du Nord, tel qu'il décrit dans les versets que nous venons de lire. Dieu dit au verset 12, « Et malheur à eux quand je les abandonnerai. » Au verset 15, nous lisons, « Je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. » Alors qu'Israël avait été la nation élue de Dieu, le peuple auquel ces paroles étaient adressées était complètement désavoué. Ce peuple était rejeté. Et donc mon premier point va être le verset 10, que j'ai intitulé « Une relation qui tourne mal ». Donc il fut un temps où les relations entre Israël et son Dieu étaient comme une relation entre un mari et une femme. Donc une relation qui était douce. On pouvait dire que c'était la lune de miel à un certain moment. Lorsque nous lisons les livres de l'Exode et le livre des Nombres, ces livres font état de plaintes incessantes, de plaintes continues et de certaines rébellions de la part du peuple d'Israël. Mais le Seigneur était toujours capable de se réjouir de sa nation qu'il avait rachetée. Nous lisons au verset 10, « Comme des raisins dans le désert, dit-il, j'ai trouvé Israël. Comme des raisins dans le désert. » Je pense que vous voyez un peu à quoi ressemble un désert. « Comme des raisins, j'ai trouvé Israël dans le désert. » On ne peut pas trouver des raisins dans un désert. La vitalité spirituelle d'Israël exprimait donc la bénédiction surnaturelle de Dieu. Vous pouvez voir comment ce peuple était aimé de Dieu et choisi de Dieu. Israël était en effet un fruit. On peut parler d'une perle rare. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Je ne sais peut-être pas, mais si vous connaissez un figuier, vous allez comprendre que les fruits prennent du temps avant d'arriver, et ça prend énormément de temps avant de cueillir le premier fruit. Donc, pouvez-vous imaginer un peu ce que le Seigneur avait trouvé en Israël. C'est ainsi que le Seigneur dit, j'ai vu vos pères. C'était un plaisir rare pour Dieu d'être servi par une nation sainte, rachetée par la grâce dans le monde. Il n'a cependant pas fallu longtemps pour que cette relation tourne au vinaigre. Quand je dis tourne au vinaigre, ça veut dire qu'il s'est vraiment, comme on dit, gâté, qui a pris une autre tournure. C'est ainsi que le Seigneur, au milieu de ses délices pour Israël, pendant le voyage de l'Exode, a vécu un événement qui a mis en évidence le cœur infidèle de son peuple. Le livre des Nombres raconte comment Balak, roi de Moab, craignait la nation d'Israël en voyage à cause de sa victoire sur les Amorites. Lorsqu'on lit les chapitres 22 et 24, je ne passerai pas à travers des chapitres 22 à 24, mais lorsqu'on lit les chapitres 22 à 24 des Nombres, on voit que Balak a engagé le prêtre Balaam pour jeter des malédictions sur Israël, mais que le Seigneur a contré ces malédictions par des bénédictions. Et donc c'est pourquoi au chapitre 25 de Nombres, Balak change de tactique. Cette fois, il cherche à séduire les Israélites. Donc il invite les hommes à des sacrifices à Baal-Péor, où les filles de Moab servent de prostituées. Et donc au grand désarroi du Seigneur, au verset 1 de Nombre 25, les hommes d'Israël se sont empressés d'y participer. Si bien qu'ils se prostituèrent avec toutes les filles de Moab. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et on va le voir au verset 9 de Nombre 25. 24 000 membres de son peuple furent tués. C'était violent, vraiment violent. Et donc, cette infidélité a changé la relation du peuple d'Israël avec son Dieu. Osée raconte, toujours dans le verset 10, « Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Ce qui était abominable, c'était l'autel païen de la fertilité de Baal. C'était ça qui était abominable. La volonté du peuple de s'engager dans l'idolâtrie montrait clairement que le cœur d'Israël n'était pas lié au cœur de Dieu. N'était pas lié au cœur du Dieu de l'Alliance. Israël devait être consacré à son Dieu. Israël devait être saint pour son Dieu. Mais le peuple avait échangé cette sainteté contre de l'idolâtrie. Et de ce fait, Israël devint détestable aux yeux de Dieu. Comme ce qu'ils aimaient en part de leur idole ici. Étant donné que ces idoles étaient détestables, mais Israël aussi était par la même occasion détestable aux yeux de son Dieu. Dieu, notre Dieu, a horreur des idoles. Notre Dieu a horreur des idoles, parce qu'il est un Dieu qui est jaloux. Et notre société, inondée d'indulgence sexuelle, représente une menace pour les chrétiens, une menace pour les disciples de Christ. Combien de serviteurs du Seigneur auparavant fidèles se sont abandonnés au péché sexuel? Combien? On n'en compte plus. Paul insiste sur le fait qu'être fidèle à Dieu avec son cœur implique également un usage sain de son corps. On n'est pas uniquement sain à l'intérieur, dans notre cœur, mais dans nos actes aussi, c'est-à-dire dans les actions que nous posons. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 17 à 19. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés en faisant de nous des adorateurs. Et nous lui sommes entièrement et exclusivement consacrés. Amen. Les idoles sont vides, vaines et offensantes pour le Seigneur. Le psaume 115, verset 8, nous met en garde. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Aucune différence. John Gill, un théologien réformé baptiste anglais du XVIIe siècle, commente « Dieu a trouvé Israël dans le désert, séparé des autres nations, et l'a distingué par sa grâce. Mais maintenant Israël est devenu semblable à des raisins pourris et à un figuier qui a donné son fruit pourri. » « vous aimez en lumière l'aspect tragique du contraste entre la gloire initiale et la dégradation spirituelle du peuple d'Israël. Ce passage nous montre que Dieu se souvient de l'amour des débuts. Notre Dieu n'oublie pas. À nous de nous remettre en question et de chercher à nous examiner dans notre marche, à nous examiner constamment. Ai-je perdu mon premier amour pour Christ? Ai-je perdu mon premier amour pour Christ? Nous lisons dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » On peut aussi se poser la question, « Suis-je encore émerveillé par la grâce que Dieu m'a montrée au début de ma marche chrétienne ?» Le but, c'est de revenir au Père et dans la repentance. Amen. Mon deuxième point, les versets 11 au verset 14, quand Dieu se retire. Nous lisons la première partie du verset 11. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Le jugement de Dieu sur l'idolâtrie a généralement un effet d'exposer les idoles comme fausses et d'inverser les bénédictions qu'elles sont censées procurer. D'après des passages de l'Ancien Testament, nous pouvons considérer que la gloire d'Éphraïm fait référence à la présence du Seigneur lui-même. Parce que là, on voit que la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Et là, on voit que certains passages font référence à la présence de Dieu, qui peut partir aussi. Et donc, à l'époque des juges, donc dans le livre des juges, les méchants fils du grand prêtre Élie, Ophni et Phiné, ont emmené l'arche du Seigneur au combat contre les Philistins. À cause de leur péché, le Seigneur vainquit son peuple et livra l'arche à son ennemi. Et lorsque ce désastre fut annoncé à Silo, la veuve de Phiné, qui était enceinte, accoucha. Lorsqu'un fils est né, elle l'appelait Ichabod, expliquant ainsi que la gloire s'est retirée d'Israël, parce que l'arche de Dieu avait été capturée. Plus tard, on va voir aussi que le prophète Ézéchiel a eu la vision de l'Esprit de Dieu quittant le temple de Jérusalem, signalant l'abandon de la ville par le Seigneur aux assauts babyloniens. Ézéchiel commente que, dans Ézéchiel 10, verset 4, « La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins, loin de la ville autrefois sainte. » Et donc maintenant, à l'époque d'Osée, la même chose se produirait pour Israël. Pourtant, il semble que le point de vue des Israélites, leur gloire résidait dans l'abondance des enfants. Leur gloire résidait là-dedans, dans l'abondance des enfants. La prospérité de la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ avait provoqué un boom démographique. En même temps, une très grande prospérité. Donc ils avaient un boom démographique, donc beaucoup d'enfants, mais aussi en termes de prospérité, ils étaient pleinement bénis. La bénédiction de cette descendance, malheureusement, était attribuée à Baal, à cause du culte de la fertilité cette bénédiction n'était même pas reconnue comme étant celle du Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi, afin d'exposer la vanité de cette idolâtrie, le Seigneur enlèverait les enfants dont Israël se glorifiait. Le Seigneur a décidé d'enlever les enfants. Et la perte des enfants, comme on le lit, se fera de deux manières. La première étant une stérilité généralisée dans tout le pays. Nous lisons dans la première partie, dans la deuxième partie du verset 11, « Plus de naissances, plus de grossesses, plus de conceptions. » Vous imaginez un peu dans un pays où il n'y a plus de naissances, où il n'y a plus de conceptions, taux de natalité zéro. Mais on s'en va vers la fin, parce que les gens vont vieillir, vont mourir, mais il n'y aura même pas de relève, il n'y aura pas d'enfants. En fait, c'est annonciateur d'une destruction totale. Et ce terrible châtiment correspondait exactement à ce que Moïse avait prédit en Deutéronome 28, verset 18. Si le peuple ne restait pas fidèle au Seigneur, nous lisons, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et selon le psaume 106, verset 37, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Le culte de Baal Péor incluait ces sacrifices d'enfants. Ici, il y a une ironie qui est quand même palpable. Bien que l'adoration des idoles ait été conçue comme un moyen d'assurer la fertilité, le prix de l'idolâtrie était le sacrifice des enfants, même qu'Israël recherchait. Maintenant, c'est le Seigneur qui inflige à la nation des utérus qui étaient stériles et une absence généralisée d'enfants en guise de jugement. Pourquoi ? Pour l'idolâtrie du peuple. En plus des utérus stériles, le Seigneur leur enlèverait les enfants qu'ils avaient mis au monde. Nous lisons verset 12. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Est-ce que vous saisissez un peu la portée de ce message? Un enfant qui viendrait au monde, mais dont la fin serait la mort. En tant que parent, lorsqu'on le sait, on ne peut pas savoir à quel point on est dévasté. Ici aussi s'accomplit l'ancien avertissement de Moïse, toujours dans Deutéronome 28, verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. La leçon ici est que sans la présence et la bénédiction de Dieu, toute autre bénédiction est perdue. Et toujours au verset 12. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Le Seigneur ne défendrait plus le peuple d'Israël contre ses ennemis, mais il deviendra la proie des nations plus fortes. Dieu avait promis une multitude de descendants à Abraham en Genèse 15, 5. Mais ses descendants infidèles allaient s'éloigner de l'alliance de Dieu et donc de ses bénédictions. On voit une différence avec ce que Dieu promet et que son peuple a régulièrement expérimenté tout au long de l'histoire. Nous lisons dans Ésaïe 54, verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes filles, de tes fils. » Ici, il nous faut être fidèles au Seigneur pour qu'il nous bénisse, pour qu'on vive dans sa grâce. Le Seigneur ici nous appelle à cette fidélité qui est exclusive à lui tout seul. Le Seigneur aussi nous appelle à une sainteté, à être consacré à lui, afin de ne pas vivre ce genre de jugement que ce peuple-là allait vivre. Au verset 13, Osée fait une comparaison intéressante. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Tyr était comme Éphraïm dans une situation avantageuse où Dieu l'avait placé. De plus, le siège assyrien de Tyr commença la même année que le siège final de Samarie en 724 avant Jésus-Christ. Tout comme sa destruction eut lieu la même année, et il y avait aussi sa chute à la même période. L'idée ici, c'est que Dieu a béni de nombreuses nations différentes et que de même que ces peuples perdront leur identité le jour du jugement. Dieu les a bénis, c'est vrai. Mais il les appelait à une fidélité. Et lorsqu'il y a eu l'idolâtrie, lorsqu'il y a eu infidélité, ben il a rompu l'alliance aussi. Mais Éphraïm menera ses enfants vers celui qui les tuera. D'autres nations ont reçu de grandes richesses de la part du Seigneur, pour lequel elles lui ont rendu un culte. Pour nos pays, en Occident, comme pour les autres aussi, abandonner le Dieu de nos bénédictions, c'est renoncer, notamment en ce qui concerne nos enfants. Parce que lorsque vous lisez dans Deutéronome 27, les malédictions, elles vont de génération en génération. Lorsque nous nous engageons dans une infidélité avec le Seigneur, nous devons nous attendre à sacrifier aussi notre descendance et nos enfants. Après la condamnation de son peuple par le Seigneur, le prophète fait une prière. Il commence par des paroles qui semblent être un appel à la miséricorde. Au verset 14, il dit « Donne-leur, ô Éternel !» Il prie, mais il s'arrête. « Que leur donneras-tu ?» Et ici, on peut voir qu'Osée est soumis à la justice de Dieu. Il est vraiment soumis à la justice de Dieu. Osée accepte la sentence de Dieu. Au verset 14, « Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. » En fait, il comprend ce qui s'en vient. C'est comme s'il essaie de demander le moins pire que l'exil, parce qu'en exil aussi, c'est une autre paire de manches. Et donc certains commentateurs ont positivement interprété cette prière, considérant qu'Osée demande le moindre des deux jugements, la stérilité, mais pas l'exil. Ou même qu'il demande la miséricorde pour un manque d'enfants qui ne ferait que souffrir. Parce qu'il avait conscience que si ses enfants venaient au monde, ces enfants-là allaient souffrir, ces enfants allaient mourir. John Gill encore commente, « Ce verset est un appel de l'Éternel à porter une malédiction sur Israël. Dieu empêche tout ce qui pourrait donner de la vie et de la croissance, laissant Israël dans une situation désespérée. » Cela souligne l'aspect définitif du jugement divin lorsqu'un peuple persiste dans son péché, lorsqu'un peuple persiste dans son idolâtrie. Le prophète appelle à la stérilité totale, symbolisant la fin de la fertilité spirituelle d'Israël. Le sein avorté et les mamelles stériles sont, dans ce contexte-là, des symboles puissants d'une grande désolation. Israël, ayant abandonné Dieu pour l'idolâtrie, est devenu spirituellement stérile. Et le jugement de Dieu est décrit ici comme étant sans retour. Dieu allait continuer, il allait agir. Mon troisième et dernier point, des versets 15 au verset 17, un peuple privé de la grâce de Dieu. Si le verset 11 parlait du départ de la gloire de Dieu, les derniers versets que nous lisons ici sont tellement douloureux et part de l'expulsion du peuple de Dieu de sa maison et surtout de sa grâce. Une fois de plus, Osée se tourne vers un endroit géographique d'Israël pour apporter cette preuve. Nous lisons au verset 15. « Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. » Gilgal est un site situé sur la rive orientale du Jourdain qui a connu certains des meilleurs moments d'Israël, notamment le premier campement de Josué dans la terre promise et le retour de David après sa victoire sur Absalom. Mais Gilgal avait aussi été le théâtre de très grandes infidélités. C'est là que le roi Saül, dans 1 Samuel 11, verset 15, avait été acclamé lorsqu'Israël avait demandé un roi comme toutes les nations. Ce que le Seigneur avait interprété comme un rejet de son pouvoir et un rejet de son alliance. Le fait que Gilgal soit devenu un centre d'adoration d'idoles mélangé à l'adoration de Dieu était particulièrement significatif. Et cette caractéristique explique probablement la déclaration de Dieu au verset 15. C'est là que je les ai pris en aversion. Et lorsqu'on regarde les textes hébreux, nous lisons, c'est là où j'ai commencé à les haïr. C'est là où j'ai commencé à les haïr. Tous leurs mots étaient représentés dans ce lieu célèbre qui aurait dû inspirer aux Israélites la fidélité de Josué, la fidélité de David, mais qui au contraire a été le témoin de leur infidélité devant leur Seigneur. Toujours au verset 15, « À cause de la malice de leurs œuvres ou méchanceté dans leurs actions, déclare Dieu par l'intermédiaire de son prophète, je les chasserai de ma maison. » Et ici, on peut voir que l'alliance, ici, est rompue. L'alliance est rompue pour la tribu d'Éphraïm et le royaume du Nord. Le mariage est terminé. Israël sera exclu de la sollicitude de Dieu et de son cœur. je ne les aimerai plus, déclare-t-il, suspendant ainsi les obligations d'un mari envers sa femme. Vous imaginez un peu dans un mariage, vous levez un matin, vous dites à votre épouse, je ne t'aime plus. C'est exactement ce qui s'est passé entre Dieu et son peuple. Je ne les aimerai plus. Israël devra se débrouiller seul parmi les nations hostiles. Pendant des années, ils ont bénéficié de la présence de Dieu. Ils ont bénéficié de sa présence même s'ils ne l'ont pas honoré. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu qui est patient. Dieu est un Dieu qui a un amour inconditionnel. Dieu a supporté leur infidélité. Mais là, c'est comme si on était à un point de non-retour. Il fallait qu'il agisse. Maintenant, il va se retirer et le résultat sera la fin de leur bénédiction. Derrière tout ceci, Osée voit la méchante direction politique, c'est-à-dire des autorités en place, qui a accéléré la corruption du peuple. Parce que nous lisons, toujours au verset 15, tous leurs chefs sont des rebelles. Tous leurs chefs sont des rebelles. Jean Calvin note que le péché d'Israël n'est pas dans la simple désobéissance à la loi de Dieu, mais dans une rébellion systématique de leur cœur. Jean Calvin continue toujours. L'homme ne devient coupable que lorsqu'il se détourne volontairement de Dieu et de sa vérité. Leur cœur faux est une illustration de la corruption totale du cœur humain. Donc dans ce verset, le cœur d'Israël est dépeint comme étant faux et corrompu. Calvin explique que ce cœur faux est le résultat d'une idolâtrie persistante et d'un éloignement de la vérité de Dieu. Le peuple d'Israël s'est détourné de la pureté de la loi de Dieu. Et ses dirigeants, qui étaient censés être des guides spirituels, ils ont failli à leur responsabilité. Eux qui étaient censés leur emmener dans les voies de Dieu de l'Alliance. Eux qui étaient censés les enseigner les bienfaits, leur parler des bénédictions du Dieu de l'Alliance. La rébellion d'Israël n'est pas accidentelle, mais c'est une chose qui était volontaire, issue d'un cœur qui était complètement perverti. Et le verset 16 vient appuyer cela. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Nous lisons qu'Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Le jugement de Dieu est décrit comme une action qui est décisive ici. Décisive, sans compromis. Israël, symbolisé par Éphraïm, est frappé au niveau de ses racines. Et cela montre que la rébellion du peuple n'a pas seulement des conséquences superficielles. Elle atteint la racine même de leur existence spirituelle. Et ça nous dit que la sanction de Dieu, la sanction que Dieu les inflige, elle est totale. Elle n'est pas seulement superficielle. Elle va même atteindre les racines. Elle est totale. La stérilité spirituelle d'Israël est le résultat de son rejet de Dieu. Et ce jugement est irrévocable sans une réelle et authentique repentance. Il est important de noter que Dieu, notre Dieu, ne punit pas de manière capricieuse. Ce n'est pas par un caprice qu'il fait tout ça. Mais c'est uniquement selon sa justice parfaite. C'est selon sa justice parfaite. Ce n'est pas par un caprice, parce qu'il s'est levé le matin qu'il a voulu infliger ça à son peuple. Mais c'est à cause de sa justice qui est parfaite. Et il faut noter aussi que ce n'est pas une réaction de Dieu qui est malveillante. Non. Ce n'est pas une réaction qui est méchante, mais une réponse juste au péché d'un peuple qui s'est détourné de son Dieu. Une vie sans grâce de Dieu signifie une punition sous la loi de Dieu. Elle signifie la stérilité de l'âme comme les entrailles vides d'Israël. Elle signifie aussi la perte de la bénédiction des choses que nous possédons, tout comme les enfants qu'Israël avait mis au monde seraient tués ou emmenés en captivité. Au verset 17, nous lisons « Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. » Ces derniers mots soulignent que le Dieu que les pécheurs méprisent est celui qui a parlé dans sa parole. Le Dieu de vérité. Le résultat d'un tel rejet ne peut être que l'expérience d'Israël en tant que peuple. Et ils seront errants parmi les nations. Ils vont errer parmi les nations. Et lorsqu'on parle d'errance, on pense à la terre promise. La terre promise, qu'il s'agisse de Canaan ou des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, n'est pas pour les apostats, n'est pas pour les infidèles. Jésus a parlé en des termes difficiles mais vrais de ceux qui persistent à rejeter Dieu et subissent sa colère au lieu de son amour qu'ils ont rejeté. Dans Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour finir, ce chapitre nous ouvre le cœur d'un Dieu d'amour qui est blessé. D'un Dieu d'amour qui est offensé, d'un Dieu qui est trahi par l'infidélité de son peuple. Et ce Dieu ne peut plus garder dans sa maison une épouse qui est infidèle. Osée avait essayé de prier avec des mots pour obtenir la miséricorde. On a lu au verset 14, « Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu ?» Mais Osée n'avait pas réussi à obtenir le pardon. Osée n'avait pas réussi à obtenir le pardon. Mais nous avons une bonne nouvelle. Je vois vos visages sourire, en effet. Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle ? Amen. C'est que notre Dieu n'a pas eu besoin de prophète pour faire preuve de miséricorde. C'est pourquoi il a envoyé un autre messager à son peuple égaré. Un messager qui pouvait offrir une prière bien plus meilleure. Et une prière qui était beaucoup plus efficace pour le salut de son peuple. Osée ne pouvait pas implorer la miséricorde, ne possédant rien en lui-même qui puisse transformer la colère de Dieu en grâce. Mais Jésus-Christ, le Fils Saint de Dieu, possédait les mots qui manquaient au prophète. Depuis la croix, il a lancé un appel à la compassion en Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Jésus possédait, en tant que don de l'amour de Dieu pour nous, une offrande qui lui permettait d'obtenir le pardon pour lequel il priait. Sa propre vie sainte et sans tâche, offerte en sacrifice pour nos péchés. Israël n'avait causé. Et même ses paroles, ils ne l'ont pas écouté. Mais nous avons Jésus-Christ qui nous parle d'un évangile de grâce qui nous épargnera de la peine de notre infidélité et de notre péché. Paul a expliqué que dans 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous en appelons donc à l'apôtre, en tant qu'ambassadeur de Christ, le verset 20 de 2 Corinthiens 5, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Soyons réconciliés avec Dieu. J'ai quelques applications. La première, le jugement de Dieu, parce qu'il y en a qui pensent que ça s'est uniquement passé dans l'Ancien Testament, ça n'a plus rien à voir avec nous à cause de l'alliance de grâce. Mais le jugement de Dieu est aussi une réalité qui nous concerne aujourd'hui. Dans un monde qui minimise la notion de jugement, il est crucial de se rappeler que Dieu est un juste juge et il juge avec justice. Et sa justice est parfaite. Le péché mène toujours à la mort spirituelle et nous, comme Israël, nous devons faire face à la réalité de ce jugement tout en reconnaissant que Dieu est juste et vrai dans ses décisions. En tant que chrétiens, nous devons vivre dans une sainte crainte de Dieu, conscients de ses standards et loin, très loin de toute forme d'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie. On parle d'idolâtrie de soi, vouloir le salut par ses propres œuvres ou marcher selon des philosophies humanistes. S'auto-définir, par exemple. L'idolâtrie religieuse, des formes de culte qui ne sont pas prescrites dans le Livre Saint. Des pratiques qui sont mondaines, des pratiques culturelles, qui nous éloignent de la vérité biblique. L'idolâtrie du cœur. Calvin disait que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Notre cœur, nos cœurs sont des fabriques d'idoles. Et c'est tout ce qui prend la place de Dieu et tout ce qui prend la place de notre Dieu dans nos affections et nos priorités sont des idoles. On parle du pouvoir, des plaisirs qu'on ne peut abandonner, l'argent ou chercher vivre d'une réputation. Mais nous avons aussi l'idolâtrie physique, l'adoration des images, se faire des statues, adorer la créature au lieu du créateur. Deuxième application, l'Église est appelé à une fidélité et non à une popularité. Une fidélité aux Écritures, non à la popularité. Israël a voulu s'assimiler aux nations, perdant son identité. Il a perdu cette identité de peuple de Dieu en voulant s'associer ou s'allier aux nations environnantes. Aujourd'hui, l'Église est tentée d'être aimée par le monde plutôt que être fidèle à Christ. Pour cela, il nous faut être véridique, même si la vérité peut être impopulaire. Il nous faut avoir une éthique qui est biblique. Il nous faut refuser les compromis, juste pour plaire. Restant distinct du monde, sans être distant, soyons distincts du monde, sans être distants. Soyons sel et lumière dans ce monde. Ça ne veut pas dire de diluer l'évangile, non. Mais nous devons prêcher la vérité et l'évangile dans ce monde. On n'a pas à rester, disons, enfermé sur une île, loin du monde, pour éviter de pécher, non. Mais nous sommes des pèlerins dans ce monde, dans le royaume de la terre, et nous nous dirigeons vers la Jérusalem céleste. Nous aurons des combats, mais restons fidèles à la parole de Dieu, proclamant cette parole. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, il fera l'œuvre dans le cœur de ceux que lui, il a appelés, il a élus. Dernière application, l'amour de Dieu n'exclut pas sa justice. Amen. C'est vrai que, Dieu m'aime, je peux faire tout ce que je veux. Non, ce n'est pas une bonne théologie. Dieu nous aime et c'est pourquoi nous devons marcher en sainteté, dans sa crainte et dans la fidélité à sa parole. Il est important de comprendre que même dans les moments de jugement, Dieu offre sa grâce. Les chrétiens, même après avoir failli, peuvent revenir à Dieu avec un cœur repentant. Parce que notre sanctification, elle est progressive. Dieu nous a justifiés. Mais notre sanctification, elle est progressive. Nous allons tomber. Avec la grâce et l'aide de Dieu, relevons-nous avec un cœur contrit, repentant, en reconnaissant nos fautes, nos erreurs, et d'implorer sa grâce, afin de nous renouveler, pour qu'on puisse lui être agréable encore une fois. La question est, allons-nous saisir cette chance de repentance? Ou allons-nous continuer dans notre vie d'idolâtrie, dans notre vie de péché. N'attendons pas un moment plus propice. Je me rappelle quand on était jeunes. Bon, c'est pas que je suis vieux, mais on se dit je fais ce que je veux pour l'instant, mais Dieu m'attendra. Non, pas du tout, non. Mais du moment où on a été exposé à la vérité biblique, du moment où notre cœur a été régénéré, nous marchons en fidélité de vie avec Christ. Le véritable fruit de la repentance est une vie transformée, marquée par la justice et la miséricorde. Dieu, dans sa grande miséricorde, offre toujours une voie de réconciliation. Repentez-vous et revenez à Dieu. Repentons-nous. Et revenons à Dieu. Que ce message nous pousse à réfléchir sur notre fidélité à Dieu, à éviter les faux dieux modernes et à rechercher la restauration dans une repentance qui est sincère et qui est véritable. Amen.